c'est un homme courageux, n'est-ce pas? Parler d'un tel sujet pendant que quelqu'un est en train de coiffer ses cheveux, c'est bien courageux. Mais je trouve quand même que Thibault est bien sorti de la conversation. Je n'oserais pas moi-même. Donc, nous a parlé de la tolérance et aussi un peu comment on trouve cette équilibre quelque part de être tolérant, ne pas juger, mais quand même rester fidèle à certains valeurs, certaines choses que Dieu enseigne. Et ça, c'est toujours un défi. Mais quelque part, cette tension existe un peu dans le caractère de Dieu. Et ce que je veux faire un peu pour faire la suite à ce que Don nous a dit, c'est que j'aimerais bien qu'on regarde un petit passage pendant 20 minutes environ au sujet du caractère de Dieu. Donc, on va regarder en Exode, chapitre 34, versets 5 à 7. Voilà. Je pense, si vous voulez un titre pour cette prédication, peut-être vous pouvez prendre le titre « Dieu est bon, mais n'est pas le Père Noël », d'accord? Dans le sens que Dieu est bon, mais Dieu a cet écrit d'être bon, mais aussi c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui ne tolère pas n'importe quoi. C'est un Dieu de justice, ainsi qu'un Dieu d'amour. Notre Dieu n'est pas un vieux monsieur au ciel. C'est souvent peut-être l'image que les gens ont de Dieu, qu'il est quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un un peu distant, quelqu'un qui va faire que du bien aux gens, mais qui est quelque part un tout peu impuissant et que, tu vois, c'est un peu l'image peut-être que les gens ont de Dieu aujourd'hui. Peut-être il y a d'autres images de Dieu. On a un peu l'image peut-être des religions orientales, un peu, que Dieu c'est comme une force, c'est quelqu'un, un être qui vit en tout, qui vit dans tout le monde, qui vit dans la nature, etc. Il y a aussi peut-être l'image de Dieu, le Dieu d'Islam peut-être, qui est un Dieu un peu sévère, un Dieu loin, un Dieu qui peut peut-être faire grâce, qui peut peut-être aimer, mais qui est quand même plutôt sévère, qui est quand même à respecter, à craindre. Mais le Dieu de la Bible, il est saint, il est pur, c'est un Dieu de justice, mais c'est aussi un Dieu d'amour. On a une personne complète, quelque part, dans l'image de notre Dieu. Et nous allons regarder un peu son caractère. Je pense que il y a Romains chapitre 11 et verset 22 où l'apôtre Paul dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Le contexte de cela, c'est qu'il parle en fait de la nation d'Israël. Il parle des Juifs qui ont été retranchés, qui ont été le peuple choisi, mais qui n'étaient plus le peuple, qui ne portaient plus le salut, qui n'étaient plus le peuple choisi de Dieu, parce que l'évangile est allé vers les non-croyants. Mais Paul est en train de dire, mais quand même, que Dieu a même le fait que quelque part ils ont été retranchés, que Dieu a un plan pour les Juifs aussi, qu'il y aura tout Israël qui sera sauvé à la fin. Mais Paul parle en fait que en fait, les Israélites, ils ont été quelque part rejetés par Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont été contre ça, ils ont mis Jésus à mort, ils ont été retranchés. Et les païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu avant, ils sont devenus chrétiens, ils sont en relation maintenant avec Dieu, mais ils leur disent de ne pas être arrogants, parce que considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu peut nous retrancher, Dieu peut retrancher ceux qui le rejettent. Dieu, c'est un Dieu de jugement, mais aussi un Dieu de grâce, un Dieu qui fait du bien. Donc, considérons donc la bonté et la sévérité de Dieu selon Paul. Et on va regarder maintenant notre passage pour aujourd'hui, Exode chapitre 34. Quelqu'un a prié pendant la louange, je veux monter sur la montagne, je veux être dans ta présence. C'est en fait, c'était le souhait de Moïse. Et Moïse, il est monté sur la montagne. Il a dit, je veux voir ton visage, Dieu. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir mon visage. Si tu vois mon visage, tu vas mourir. Et donc, Dieu l'a pris, Moïse est monté sur la montagne, Dieu l'a mis dans un creux, dans un rocher. Il dit, lorsque je passe, je vais mettre ma main sur le creux et tu peux voir mon dos, mais tu ne peux pas voir mon visage parce que sinon tu seras fini, hein? Tu seras mort, Moïse. Donc, et Dieu passe devant Moïse et puis... et en fait, il proclame qui il est. C'est vraiment un moment de révélation à Moïse, pour le peuple, de qui est Dieu, quel est son caractère, comment est notre Dieu. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étend là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. Lent à la colère, riche en bonté et en vérité, il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais ne traite pas le coupable en innocent, il commet la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. La bonté et la sévérité de Dieu dans ce passage. À décortiquer un petit peu. On commence avec les sujets plus faciles, on termine avec les sujets plus difficiles. Parce que le passage va dans cette ordre. D'abord, Dieu est un Dieu de grâce et compassion. On peut parler de la grâce commune, c'est-à-dire que Dieu est bon envers tous les hommes. Si on profite du soleil, si on est mangé, si on a de bonnes choses dans la vie, ça, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui rejettent Dieu, ainsi que pour ceux qui acceptent Dieu. On peut parler de la grâce commune de Dieu envers tous les hommes. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est sa grâce commune, sa grâce envers tout le monde. Mais on peut aussi parler bibliquement de la grâce salvatrice. C'est Dieu sauve. Dieu vient dans nos vies. Dieu montre sa grâce à certaines personnes pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit en relation avec lui. Quelque part, c'était le cas pour Moïse. Dieu a fait grâce à Moïse pour qu'il puisse monter sur la montagne, pour que Dieu se révèle à lui. En fait, Moïse, même s'il cherchait Dieu, il attendait longtemps dans sa vie, et c'était devant un buisson ardent, un buisson qui était dans le désert, lorsqu'il était à l'époque belge et dans le désert, que Dieu s'est révélé à lui. Et c'était une grâce de Dieu. Si aujourd'hui je suis chrétien, si aujourd'hui j'ai une relation avec Dieu, c'est par grâce. Ça vient de Dieu. C'est très important à s'en souvenir que notre relation avec Dieu, si on est chrétien, à l'origine, Dieu était à l'origine de ça. C'était pas nous qui a choisi Dieu, c'était Dieu qui nous a choisi uniquement. Et pas faire le fier devant les autres. Je ne peux pas faire le fier en jugeant les autres. Si je vois quelqu'un ici, votre vie est vraiment n'importe quoi, vous êtes vraiment terrible, je ne peux pas dans mon cœur juger parce que je sais si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai une relation avec Dieu, s'il y a de meilleur dans ma vie, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à ce qu'il a fait pour moi. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il a la grâce qui sauve. Et quelque part, ça cloche aussi un peu avec notre société actuelle, parce que notre société, c'est on pourrait l'appeler peut-être une méritocratie. C'est-à-dire que je mérite quelque chose, je l'aurai. Si je travaille bien, j'aurai de l'argent. Si je étudie bien, j'aurai un bon diplôme et j'aurai accès à des privilèges dans la vie. Mais en fait, Dieu dit, il a dit à Moïse, chapitre 33, verset 19 de Exode, Dieu dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Ça peut être un peu choquant pour nous.
Ah, oui.
Tu dis, où est la justice? Mais Dieu peut faire ce qu'il veut faire.
Mm-hmm.
Mais Dieu peut faire ce qu'il veut faire.
Mm-hmm.
Parce que comme Paul dit, il est le portier, nous sommes l'argile.
Mm-hmm.
Il est le créateur, nous sommes les créatures.
Mm-hmm.
Donc, on est des créatures, il est le créateur. C'est lui qui crée quelque chose, il peut faire avec ce qu'il veut.
Mm-hmm.
Et ça, c'est une réalité qui n'est pas tout à fait confortable,
mm-hmm.
mais c'est quand même vrai. C'est quand même quelque part juste, mais c'est difficile pour nous de l'accepter. Mais Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais Dieu est quand même un Dieu qui est rempli de grâce et de compassion. Et il y a encore une bonne nouvelle dans ce passage. Et ça veut dire que Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Est-ce que Stuart est lent à la colère? Je demande à ma femme. Premier jour, hein? Dieu est lent à la colère. Ça devrait nous donner de l'espoir. Hein? Mais Dieu en colère, mais contre quoi? Romains chapitre 1, verset 18. Paul nous explique que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Un homme innocent est meurtri. Dieu est en colère. Quelqu'un est violé, une femme est violée. Dieu est en colère. Dieu, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes. Mais si même Dieu est en colère contre le péché, sa nature, selon ce qu'il révèle à Moïse, c'est qu'il est lent à la colère, qu'il est quand même patient, qu'il est quand même, il tolère quelque part, et quelque part Dieu est un peu tolérant.
Mm-hmm.
Dieu tolère certaines choses, Dieu mm-hmm. laisse aller certaines choses,
mm-hmm.
Juste qu'il choisit de, parce que quand même, de sa nature, il est lent à la colère. Nous considérons, si par exemple on regarde un peu l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, vous voyez tout le temps que le peuple se révèle contre Dieu. Le peuple n'obéit pas à la loi de Moïse. Le peuple sont réfractaires, ils sont rebelles, ils adorent d'autres dieux au lieu de Dieu. Mais ça prend des siècles, avant que finalement la justice de Dieu tombe. Ils sont portés en exil, ils partent de leur pays et Dieu juge la nation. Dieu est patient, Dieu est lent à la colère. Si on pense à Jésus par exemple, Jean chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et si on pense à Jésus, Jésus c'est le Fils de Dieu. Okay? Dieu il envoie son Fils. Jésus est Dieu aussi. Jésus est entièrement Dieu, entièrement homme, mais Jésus il vient sur terre. Et qu'est-ce que les hommes font avec Jésus? Jésus il fait du bien. Il guérit les gens. Il enseigne les gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il a été trahi par un ami. Il a été abandonné par les autres amis. Il a été fouetté, insulté, giflé. Il a eu un courant d'épines enfoncé dans sa tête. Il a été condamné, quoique innocent. Tout ça, vous pouvez lire, est arrivé à Jésus, est arrivé quelque part à Dieu, est arrivé à Dieu le Père, c'est arrivé à son Fils, c'est encore plus difficile. Et comme Don nous a rappelé sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Si on croit, Dieu est dans la colère, un Dieu qui peut envoyer son Fils, que son Fils subit tout ça, que son Fils puisse dire à la fin, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un Dieu qui peut nous offrir maintenant le pardon de nos péchés, une relation avec lui, l'amour de Dieu envers nous, les êtres humains qui ont fait une telle chose à son Fils. Il est bel et bien un Dieu d'amour, un Dieu lent à la colère. Si c'était moi, si c'était vous à qui tout s'était arrivé, est-ce qu'on aurait facilement donné le pardon aux autres? Est-ce qu'on aurait dit pardon lui, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est tout à fait bien ce qu'il fait. Ouais? C'est vraiment un Dieu qui est lent à la colère. Ça devrait nous donner de l'espoir. Je pense aussi dans ce passage, ça parle de 1000 générations et ça parle aussi de 3 et 4 générations. Ça parle de l'amour de Dieu qui demeure pour 1000 générations et ça parle de le jugement de Dieu qui part sur les 3-4 générations. Bon, on va revenir un peu à cela à la fin, mais si vous faites un peu de calcul, si vous faites un peu de mathématiques, c'est dur pour moi, mais j'ai calculé avec la calculatrice que ça fait au moins 250 fois plus d'amour que de jugement, quelque part. Je ne dis pas ça exactement, c'est comme ça, mais ça devrait... Pourquoi Dieu se révèle comme ça? Je pense que parce qu'il veut mettre l'accent du fait qu'il est quand même un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui peut garder son amour pour 1000 générations. En Jésus, qui a donné sa vie pour nous, les gens qui sont pardonnés, ça exprime un peu la grandeur, la majesté quelque part, l'amplitude de l'amour de Dieu pour le monde. Lorsque la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique », on a un Dieu qui est amour, on a un Dieu qui est quand même bon. Ok, bon, on a fait lent à la colère, donc riche en bonté et en vérité. On est encore dans la bonne partie, ça va dégringoler un moment. On est riche en bonté, Dieu est riche en bonté. Riche en bonté. C'est-à-dire quelque part que Dieu est généreux. Si je suis riche et en bonnes choses, ça veut dire que je suis généreux. Dieu donne librement aux gens. Et je pense qu'on a déjà parlé de la grâce. Et 1 Timothée chapitre 6, verset 17, Paul dit à de Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Et 1 Timothée chapitre 4, verset 4, Paul aussi dit, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Donc Dieu est riche en bonté, Dieu est généreux dans les choses matérielles, dans les choses qu'on apprécie dans la vie. Et je veux dire juste un petit mot pastoral par rapport à ça. C'est que on peut tendre dans le monde chrétien vers certains, peut-être des erreurs par rapport à ça. On peut tendre dans un certain ascétisme ou une certaine attitude où je suis chrétien, il faut que je souffre, il faut que je galère. Il faut que je suis dans la galère, il faut que je suis dans la pauvreté, il ne faut pas que je prenne trop de plaisir dans cette vie parce que cette vie va passer, je suis un homme spirituel. Ah. Oui? On peut avoir un peu cette attitude. Mais je vous soumets que ce n'est pas vraiment une attitude biblique. Paul dit que nous pouvons jouir de toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Rien n'est rien ne doit être rejeté pour vous qu'on prenne dans une attitude de reconnaissance. Donc on peut apprécier les choses de la vie, on peut apprécier une bonne bouteille de vin, on peut apprécier quelque chose à manger, on peut apprécier je peux apprécier ma femme, je peux apprécier la création, je peux apprécier plein de bonnes choses, je peux apprécier l'amitié des gens, je peux se jouir de ces choses et ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, par contre, c'est une bonne chose. Et mon mot pastoral, c'est pour l'église La Source, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui servent, qui font beaucoup de choses. Bravo! Mais il faut profiter de la vie aussi. Hein. Vous pouvez se jouir des bonnes choses de cette vie. En fait, probablement, si vous avez un bon équilibre avec ça, vous allez probablement servir mieux. Parce que vous serez plus heureux, vous serez moins sous pression, vous aurez plus à donner aux autres. Donc, je vous encourage. On peut jouir de la vie. On peut prendre plaisir dans certaines choses de la vie. C'est biblique, c'est pas un péché, c'est pas moins spirituel que les gens qui souffrent et qui galèrent et qui disent « Je suis un homme spirituel. » D'accord? Moi, je suis un homme spirituel. On peut se jouir. On peut se jouir des choses de cette vie. Il y a bien sûr un danger si on prend ça et si on fait ça notre Dieu. Si on fait des idoles, des choses qui ne sont pas Dieu. C'est pourquoi Paul dit rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Donc, lorsque j'apprécie quelque chose, lorsque j'apprécie quelqu'un, lorsque je respire, lorsque je vois le soleil, lorsque je vois les jolies fleurs de printemps et tout ça, quel devrait être l'état de mon cœur? Ça devrait être reconnaissance. Ce sont des bonnes choses que Dieu m'a données. Et c'est quoi la reconnaissance? C'est quelque part la louange à Dieu. Je vous encourage, je nous encourage en tant que Christ de ne pas être trop sérieux, trop focalisé sur le service, trop focalisé sur le service Dieu, de spiritualité, tout ça. Profite de ce que vous avez. Vous avez plein de bénédictions. Mais rappelons que ces bénédictions viennent de Dieu.
Amen.
Soyons reconnaissants envers lui. Ce n'est pas non plus l'évangile de la prospérité que Dieu va me enrichir et tout ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une reconnaissance. Je parle du fait qu'on peut, de manière saine, de manière bonne, profiter de cette chose. Voilà. OK. Donc, Dieu est riche en bonté. Donc, il génère par rapport les choses matérielles. À tout ce que vous avez, à tout ce que vous vivez à chaque jour. Quelque chose, tout ça, ça vient de Dieu. C'est un sujet de reconnaissance. Mais Dieu est aussi un Dieu qui est riche en bénédictions spirituelles. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 3 qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, si ça ne marche pas dans cette vie du tout, il y a des bénédictions spirituelles. Dieu est riche en bonté. Il est riche en bonté dans le sens qu'il donne des bénédictions spirituelles. Et si vous lisez en Éphésiens chapitre 1, ça parle du fait que nous avons été choisis, que nous avons été prédestinés, que nous avons été comblés de sa grâce, que nous sommes rachetés, c'est-à-dire que nous appartenons maintenant à Dieu, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes héritiers, ça veut dire que nous avons l'espérance d'une vie éternelle, que nous avons partagé dans la gloire de Dieu et que nous avons le Saint-Esprit en nous comme un gage de cet héritage. Dieu donne des dons. Dieu est généreux, Dieu est plein, riche en bonté, il est riche en bonté avec les bénédictions spirituelles. Ce passage nous dit aussi que Dieu est riche en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire vérité? Je pense que les mots autour de ça, ça parle de stabilité, il est certain, il est fidèle, il est vrai, il dit la vérité. Je pense que Dieu est riche en vérité. Et je constate qu'on vit dans un monde où on manque peut-être ce valeur. Il y a beaucoup de mensonges de nos jours. Il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup de gens qui veulent un peu détourner votre point de vue sur certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui veulent cacher la vérité dans ce monde. Peut-être c'est sur les réseaux sociaux, peut-être sur l'actualité, c'est à la une de nos jours, les mensonges qui sont proclamés un peu partout dans le monde. Et peut-être on peut être influencé par ça. Peut-être on peut devenir un peu Ça, on prend que oui, c'est toujours comme ça. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est riche en vérité. Dieu aime ce qui est vrai. Dieu aime ce qui est juste. Dieu aime ce qui est... Il aime que nous soyons dans la vérité, que nous soyons des gens vrais, authentiques, réels, et que nous parlons... Excusez-moi. Que nous ne sommes pas des menteurs, en fait, si je veux dire. Que nous ne sommes pas des gens qui traitent le mensonge. Et ce n'est pas si facile que ça dans le quotidien, n'est-ce pas? On aime bien projeter une bonne apparence aux autres. On aime un peu tordre un peu la vérité pour que ça soit un peu plus acceptable à l'autre. On ne dit pas les choses trop durement à notre coiffeuse parce que ça va avoir des conséquences. Donc parfois, on n'est pas tout à fait dans la vérité, parfois. Mais Dieu est vrai, Dieu est riche en vérité. On a un repère en Dieu. Dieu est vrai, Dieu dit la vérité. Dieu est le seul, en fait, qui sait vraiment ce que c'est la vérité parce qu'il est omniscient. Il sait tout, il comprend tout, il voit tout. Dieu est le seul, en fait, qui est capable de juger, parce qu'il voit tout, il connaît tous les cœurs qu'on ne connaît pas. Et encore, plus juste dans la bonne nouvelle de cette partie, c'est aussi un Dieu riche en vérité, il garde son amour, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Donc, il pardonne beaucoup. Il pardonne même la rébellion et il pardonne même la révolte contre lui. Et peut-être si vous êtes quelqu'un qui a peut-être quelque part rejeté Dieu, qui a peut-être eu une attitude dure envers lui à un moment dans notre vie, Dieu peut même pardonner une attitude qui est dure. Si nous nous repentons, si nous revenons vers lui, Dieu va mieux. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne la faute, la transgression, la rébellion, le péché. Mais Dieu aussi ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants de la troisième et la quatrième génération. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait tout cela. Je pense que d'abord, je veux dire qu'il y a la nécessité d'un jugement dans l'univers. S'il n'y a pas de jugement dans l'univers, s'il n'y a pas de justice dans l'univers, et qu'on a le Père Noël au ciel qui donne juste aux gens, qu'est-ce qu'on fait avec Hitler? Qu'est-ce qu'on fait avec le Shoah? Qu'est-ce qu'on fait avec les choses terribles qui ont lieu sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y aura plus de justice? C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui juge, s'il n'y aura pas quelqu'un qui punit ce qui est mal fait, qui ne punit pas la méchanceté, il n'y a pas de justice dans l'univers. C'est un peu le chaos, c'est un peu le n'importe quoi partout. Il n'y a pas d'ordre dans l'univers. Et je pense qu'il y a nécessité, si on parle un peu philosophiquement, mais il y a vraiment une nécessité qu'il y ait de la justice dans l'univers, que quelqu'un qui juge, quelqu'un qui croit un bon, long à la colère, mais qui peut juger, qui peut trancher sur les choses qui se passent. Ça, c'est pourquoi je pense que c'est nécessaire qu'il y ait un Dieu juge. Comme j'ai déjà évoqué, je veux deuxièmement que Dieu a la capacité de juger. Dieu nous a créés. Dieu sait tout. Je vois tout. Je sens tout le cœur. Je comprends mes motivations plus que je les comprends. Il sait vraiment ce qui se passe dans le cœur de chaque personne. Et dans ce cas-là, il n'y a personne qui est plus apte, qui est plus adepte à juger que notre Dieu. Dieu, il est capable, il est qualifié pour juger. Je veux dire ça aussi. Et je pense que le chapitre 9 et verset 27 dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir
une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que il y a un jugement et nous avons juste une seule vie et Dieu nous va nous juger sur cette vie. Ça, c'est la vérité de la Bible. Il faut le prendre en compte. Peut-être ce matin, si vous êtes, vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes, vous n'êtes pas encore clair sur votre relation avec Dieu, il faut prêter attention à ça. Parce que la Bible est claire. On n'a pas une deuxième, on n'a pas un purgatoire, on n'a pas une deuxième vie, on ne revient pas comme scarabée ou quelque chose comme ça, parce qu'on a mal vécu, et on ne revient pas comme un ex et on a bien vécu quelque chose comme ça. Il n'y a pas de deuxième vie. C'est donné aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous serons tous jugés. Certains de nous sont. Non, nous serons tous jugés. Et ça, c'est. Et c'est important qu'on prête attention à ça. Et c'est important que dans votre vie, à un moment ou un autre, vous pensiez à ça. Parce que ce n'est pas anodin. C'est, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un d'important dans 3 semaines, vous serez vraiment en train de réfléchir par rapport à ça, n'est-ce pas? Que si vous devez voir. Si vous devez voir quelqu'un de très important, le roi de l'Angleterre, peut-être dans 3 ans, dans 3 semaines, vous serez en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ou vous allez lui poser des questions? Je ne sais pas, mais ça va remplir vos pensées. Mais un jour, nous serons face à face avec Dieu. Un jour, nous serons devant Dieu, nous devons rendre compte devant lui. Parce que c'est celui qui sonde, c'est celui qui connaît nos cœurs. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Je pense qu'il nous convient de réfléchir à cela. La Bible est très... Jésus était très clair par rapport à ça. Par exemple, Marc, chapitre 9. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manche dans la vie que d'avoir 2 mains et d'aller en enfer. Dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est dur, hein, ce que Jésus a dit. Mais c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui est rempli d'amour. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix qui dit ça. Il dit, c'est mieux, en fait, de couper la main que d'aller en enfer, que de subir le jugement de Dieu, de vivre la punition pour péché. Il faut réfléchissent, je pense, à ça. Parce qu'il y a ces deux côtés. Il y a Dieu qui est plein de bonté, mais aussi un Dieu qui va juger. Il y a une justice, il y a besoin qu'il y ait une justice dans cet univers. Et le problème pour chacun de nous, c'est que les péchés dans nos vies, nous avons tous des motivations qui sont par selon la volonté de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon. Heureusement qu'on a Jésus. Heureusement qu'on a un point dans la Bible d'être pardonné. Ce verset ici, ça parle du fait que Dieu punit les enfants pour la faute des pères. Ça nous pose question par rapport à la justice de Dieu, je pense. Si on regarde un peu dans la société, on voit un peu ça. On voit d'un côté que les conséquences du péché d'un père sur ses enfants. Parfois, on voit des familles, il y a un problème d'alcool, mais ça descend les générations. On voit de l'abus, et ça descend les générations. En fait, c'est quelque part une réalité. Parfois, les péchés du père, ça a une conséquence sur les enfants et les petits-enfants. Ça, c'est une réalité, je pense, dans notre vie. Mais il y a un bon duvel par rapport à ça, parce que Jérémie, chapitre 31, et versets 27 à 34, parle d'une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, c'est écrit que
Les péchés du Père ne seront pas les péchés du Père n'auront pas de conséquences pour les enfants. Que chacun sera jugé pour ses propres péchés. Il y a aussi Ézéchiel, chapitre 18, qui parle de ça. Que, en fait, Dieu va juger chacun pour leurs propres péchés. Mais Jérémie 31, qui est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, ça parle d'une nouvelle alliance où les péchés des pères ne seront pas appliqués aux enfants, où Dieu va pardonner le péché, où Dieu va écrire la loi sur les cœurs des gens et qu'ils disent aussi que tous connaîtront Dieu. Donc, Jérémie nous donne parle d'une nouvelle alliance. Et, le Nouveau Testament parle de cette nouvelle alliance. Si on est en Christ, on est dans cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, chacun est responsable pour ses propres péchés, mais aussi Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Et Dieu, tous connaîtront Dieu, tous auront une relation avec Dieu. Nous serons en relation avec lui. Ce n'est pas juste une loi extérieure, mais Dieu, par son esprit, met en nous sa loi, met en nous le désir, la capacité de le connaître. C'est la nouvelle alliance. Donc, considérons donc la bonté et la sévérité de Dieu. Considérons en fait qu'on a un Dieu qui juge et que nous devons rendre les comptes avec Dieu. Mais qu'on a aussi un Dieu qui est bon et qui est lent à la colère. Et considérons avant tout qu'on a Jésus, qui est mort pour nous à la croix. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes sauvés par grâce si on est chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez mettre votre confiance en ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous pouvez être sauvé, vous pouvez connaître Jésus, vous pouvez le connaître ce matin. Mais prêtons attention à ça, ne soyons pas dans une illusion par rapport à qui est Dieu. Dieu n'est pas le Père Noël, Dieu est vrai, Dieu est puissant, Dieu est saint. Il est bon, mais il est saint. Il va juger ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon dans nos vies ou dans ce monde. Amen. Peut-être on peut se lever, on va juste prier. Seigneur, on touche à des choses profondes par rapport à toi. On touche à des choses qui sont parfois difficiles à exprimer, Seigneur, difficiles à complètement comprendre, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons garder une bonne une bonne vision de toi, Seigneur. Nous voulons te connaître réellement, Seigneur. Et nous voulons être des vrais disciples. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu qui pardonne la faute. Et si on est là, si on peut se tenir devant toi ce matin, c'est parce que Jésus a payé notre dette. Seigneur, je prie, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaisse pas, Seigneur, je prie pour que tu te révèles à eux, Seigneur. Que tu puisses saisir de ce salut que tu offres à tout le monde, Seigneur. Seigneur, si cette personne est là ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce que cette personne soit là. Et je prie que tu les attires à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à avoir du sel. Aide-nous à ne pas être des chrétiens un peu flous, un peu pas clairs, Seigneur. Mais aide-nous à être des gens qui respectent la sainteté de Dieu et qui sont aussi des gens qui reconnaissent toutes les bontés de Dieu, toute la bienveillance envers lui et des gens qui soient surtout reconnaissants devant toi, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur, et aide-nous à vivre pour toi pleinement et avec la joie, la connaissance et avec le respect que respect pour toi, Seigneur. Amen.
Amen. Amen.
Bon dimanche.
Non, c'est
à Christelle.
On chante un petit chant.